Rebonjour à tous. Alors cet après-midi, j'ai la joie d'être accompagné, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez lu sur l'invitation aussi. Et donc, nous allons traiter ensemble ce sujet de la ferveur de la jeunesse. Et on sera donc 5 à prendre la parole. Je vais commencer et moi je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'ai vécu, mon parcours, ce que j'ai vécu étant jeune, comment Dieu m'a interpellé. Et puis dans un deuxième temps, quels sont les défis qui me semblent être compliqués aujourd'hui pour parler aux jeunes, aux étudiants, dans le cadre du feu ou ailleurs. Et puis après le chant qui a été annoncé, il y aura Dave, puis Marsha qui vont apporter un mot de témoignage. Dave, plutôt sur son parcours, de ce qu'il a vécu en arrivant ici en France, bon déjà avant, mais ce qu'il a vécu ici en arrivant et comment il s'est engagé avec Dieu. Et puis Marsha sur ce qu'elle a reçu de par le ministère jeunesse quand elle était, elle, plus jeune, on va dire. Et puis maintenant qu'elle est toujours encore jeune, mais qu'elle est de l'autre côté, ce qu'elle aimerait retransmettre à la génération qui arrive après. Voilà. Et puis pour Néhémie, ce sera un petit peu l'équivalent par la suite aussi de son parcours, ce qu'il a appris étant jeune, ce qu'il aimerait retransmettre. Et elle aura un témoignage de ce qu'il a touché, motivé dans ce qu'elle a pu voir du service, du ministère dans la jeunesse. Voilà, donc il y aura un petit peu de diversité, et puis vous avez remarqué, ce n'est pas des tout jeunes non plus, hein, on n'a pas d'étudiants de 18 ans là, donc c'est des personnes qui peuvent parler en même temps de ce qu'elles ont vécu quand elles avaient 18 ans, et puis de ce qu'elles aimeraient retransmettre maintenant, comme moi qui, vous l'avez remarqué aussi, n'ai plus 18 ans. Alors, pour parler un petit peu de mon parcours, je vous propose de partir écouter une discussion entre... Jésus est un homme, et on va faire ce que toutes vos mamans vous ont dit qu'il ne faut jamais faire. On va aller écouter à la porte une discussion en privé. Et cette discussion en privé, elle se trouve dans Jean au chapitre 3. Discussion en privé entre un homme nommé Nicodème et puis Jésus. Alors, peut-être vous vous dites, c'est bizarre de donner son témoignage en parlant de Nicodème. C'est vrai que je n'aurais pas préparé un message sur Nicodème la semaine dernière, je n'aurais peut-être pas pensé à lui pour donner mon témoignage. Mais je trouve que quand je me mets un petit peu dans la peau de Nicodème, comme j'ai essayé de me mettre dans la peau de l'apôtre Pierre ce matin, il me semble qu'il y a des choses qui correspondent un petit peu à mon parcours. Parce qu'on voit un Nicodème qui est décrit là dans Jean chapitre 3 verset 1, « Il y avait parmi les pharisiens un chef des juifs nommé Nicodème ». On voit quelqu'un qui était reconnu parmi les pharisiens, qui connaissait la parole, qui avait un statut tout particulier, qui était même un chef parmi les juifs. Je ne sais pas, on a affaire à l'archevêque de Paris, ou on a affaire à un professeur éminent de la faculté de théologie de je ne sais pas où. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un titre, qui est renommé, et... quelqu'un qui, dans l'histoire qu'on voit dans Jean chapitre 3, va essayer de peut-être rencontrer encore celui qui pourrait lui amener encore un plus sur son CV. Cette personne extraordinaire qui fait des miracles, qui pourrait peut-être même être le Messie, qui sait. Mais bon, en tout cas, visiblement, il fait des choses que les profs de la fac de théologie ne font pas tous, et que même l'archevêque de Paris ne sait pas faire. Donc, ça peut être des points de bonus. Mais je crois que ça ressemble un petit peu à mon enfance. En tout cas, j'ai jamais été Nicodème ni archevêque de Paris. Mais ce que j'espérais quelque part, ce à quoi je soupirais, c'était de pouvoir vivre quelque part pour Dieu. Mais en fait, c'était surtout au fond de mon cœur le désir de pouvoir devenir un de ces héros de Dieu, mais qui sont vus comme étant des héros devant les hommes. Je rêvais de devenir missionnaire. Pourquoi je rêvais de devenir missionnaire? Parce que mes parents avaient plein de revues qui parlaient des missionnaires. Il y en avait plein. J'avais l'embarras du choix. Ma préférée, c'était La Voix de la Paix. Vous connaissez? La Voix de la Paix, c'est une mission qui travaille essentiellement en Russie, et au fin fond de la Russie. Et ce que je préférais sur cette revue missionnaire, c'était les photos. Pourquoi? Il y avait des Lada 4x4 avec des pneus qui avaient la taille d'un homme. Il dit, waouh, il passe dans la toundra avec ça, moi je veux être missionnaire. Parce que ça me faisait rêver. Il y avait ce défi humain qui était là. Il faut se surpasser, il faut... Waouh. Et en fait, petit à petit, je rêvais de devenir peut-être cet homme reconnu, ce Nicodème, qui cherche peut-être des points de bonus. On ne sait pas exactement quel est son cœur là, hein, dans Jean 3. Et on verra par la suite qu'au final, il avait un cœur tendre. Mais on ne sait pas trop où est son cœur. Et moi, je crois que j'étais comme ça. Quelque part, je voulais vraiment vivre pour Dieu depuis petit. Mais je vois que ce qui m'animait en fait le plus, c'était de briller dans le monde dans lequel j'étais, un monde de chrétiens. Et puis là, pour briller, bah, fallait être missionnaire. Hein, et puis du coup, être prêt à affronter des dangers que d'autres ne sont pas prêts à affronter. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la biographie de Evans. Le livre s'appelle « Terre glacée », avec ce missionnaire qui partait... Dans le Grand Nord, au Canada, pour vivre avec les Indiens, et on a l'impression qu'il va mourir toutes les deux pages du livre. Et c'est des scènes incroyables, et on lit ça, et on se dit, oh, mais incroyable, jamais j'arriverai à le faire. Et puis, en se disant, jamais j'arriverai à le faire, il y a quelque chose qui naissait en moi, qui me dit, si, tu le feras. Tu le feras, t'es trop fort, Pascal. Ça va être, hein, ce sera ton heure de gloire. En fait, c'est de l'orgueil, hein. Tout simplement. Mais je suis né avec ça, et puis j'ai grandi avec ça, juste à ce que, comme Nicodème, Jésus m'a fait la grâce de le rencontrer. Et à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires pour Nicodème, et puis pour moi aussi, des choses auxquelles on ne s'y attend pas trop. Bon, ça ressemble aussi un petit peu au parcours de l'apôtre Paul, vous me direz. Hein. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es... un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème arrive avec tous ses bagages, un homme reconnu comme un chef parmi les Juifs. Il vient juste se renseigner auprès de Jésus pour être sûr qu'il a la bonne adresse, en vantant ses mérites. Et quelque part, probablement, en se posant la question du Messie, et en se disant aussi probablement que ça peut être un plus pour lui, sur son CV, de cette rencontre qu'il va vivre maintenant avec Jésus. Et Jésus lui parle d'une nouvelle naissance. Naître de nouveau. Honnêtement, naître de nouveau. Ça va pour le gars qui s'est drogué, qui a vécu en patachon, qui... Ouais, tout à coup, il remarque, ah zut, j'ai 30 ans, j'ai pas de boulot, il faudrait que je fasse quelque chose, Jésus, je vais naître de nouveau. Une nouvelle vie commence et il trouve du travail. Naître de nouveau, c'est ça. Naître de nouveau, c'est pas Nicodème. C'est... Nicodème, il a déjà tout. Enfin, oui, tu as déjà un zèle qui est merveilleux, tu es reconnu, tu connais ta parole. Tout ça, c'est des bonus, Nicodème. Tu vas pouvoir t'en servir pour Jésus. Naître de nouveau. Hein? Pensez probablement aussi à Paul qui considérait tout ça comme de la boue, tout son passé qui pourtant, on se dit, ben, il aurait pu tirer plein de choses utiles pour le service pour Dieu, du fait qu'il connaissait la parole, qu'il avait du zèle, qu'il avait... Ouais, sauf qu'en fait, c'était plutôt des complications pour lui. Tout ce qu'il avait construit par orgueil pour lui-même et puis sans vouloir servir Jésus. Vous connaissez la suite de l'histoire, Nicodème a du mal à comprendre ce que c'est que naître de nouveau. Hein. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En référence à Ézéchiel 36, probablement, vous avez besoin de cette eau de purification, vous avez besoin de l'esprit qui vienne habiter en vous. Un cœur totalement nouveau, une vie nouvelle. Non, Nicodème, de cette vie terrestre qui est la tienne, tu ne vas rien pouvoir tirer. Il faut que moi je vienne, que je te lave de tes péchés, que je te donne mon esprit. À partir de là, une nouvelle vie doit commencer. Oh, que c'est difficile quand on grandit dans une famille chrétienne. Quand on grandit entouré par une église, Quand on commence à apprendre les codes de la vie chrétienne avant de connaître Jésus-Christ lui-même, pour un jour prendre conscience du fait qu'il faut naître de nouveau, que tout ce bagage qu'on a là est un fardeau plutôt qu'un atout. On a du mal à s'imaginer la claque que c'est pour Nicodème. Parce que lui, il n'a pas 18 ans. Hein. Lui, il a déjà vécu toute une vie. Il est reconnu. Et là, le message de Jésus est clair. C'est pas sur cette base-là que tu vas devoir construire. Tu dois repartir sur autre chose. Il faut que je te lave de tes péchés. Il faut que tu te laisses guider par l'Esprit. Tu arrêtes de vouloir gérer ta vie par toi-même, que tu arrêtes de poursuivre ces objectifs personnels que tu as pour devenir quelqu'un de grand, ne serait-ce un pharisien ou un missionnaire, et puis que tu laisses Jésus travailler dans ton cœur. La suite du texte nous dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Un beau jour, j'ai dû arrêter mes plans de missionnaire en Lada au milieu de la toundra. Même si, entre-temps, ça avait évolué un petit peu, je voulais travailler pour Portes Ouvertes et rester célibataire de manière à pouvoir vivre des aventures extraordinaires dans le monde entier. Mais un beau jour, c'est comme si j'avais entendu Jésus me dire est-ce que tu es prêt à ce que moi je dirige ta vie sans qu'elle soit forcément extraordinaire en termes humains? Est-ce que tu es simplement prêt à t'abandonner à moi, à ce que moi je m'occupe de ta vie? Est-ce que tu es prêt à ne pas savoir où tu vas? Moi je suis quelqu'un qui aime bien raisonner sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que tu es prêt, Pascal, à simplement pas savoir quel sera ton métier dans 5 ans? La rencontre avec Jésus pour Nicodème a changé sa vie. On le voit dans la suite de l'histoire, que sa carrière de pharisien, quelque part, il a dû avoir des prises de position qui ont dû être très difficiles. Et il a été bien tiraillé, je pense, dans la suite de sa vie. On voit de temps en temps qu'il a pris position pour Jésus. On ne sait pas dans quelle mesure il a pu rester dans le milieu des pharisiens. Ça a dû être très compliqué. Je pense que mon parcours à moi me permet de dire aussi que c'est très compliqué, en fait, quand on a grandi dans une église, entouré de plein de personnes qui vivent pour Jésus, de vraiment savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire pour Jésus, simplement par amour pour lui, ou ce qu'on est en train de faire pour paraître dans le milieu dans lequel on a grandi. C'est toujours encore une lutte aujourd'hui, de savoir où est vraiment mon cœur dans ce que je fais. Et de la même manière que je le vis comme une lutte encore aujourd'hui, et que j'aimerais vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui me dirige, sans que je fasse mes petits plans à moi, je remarque que j'ai besoin de beaucoup de sagesse, de l'Esprit de Dieu, pour savoir parler aux étudiants qui sont là, autour de moi, et qui, pour certains, ont le même parcours que moi, mais pour d'autres, pas du tout. Et pour parler de ce que j'aimerais vivre et du défi du coup de parler aux étudiants aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 15. Là, on est juste dans des textes connus cet après-midi. Hein. Luc chapitre 15, il y a trois histoires qui se suivent racontées par Jésus. La brebis perdue, la drachme perdue et puis le fils prodigue. Et puis dans cette troisième histoire du fils prodigue, on voit bien les deux cas de figure entre les deux fils dans cette histoire. Un fils qui, quelque part, avait vécu toute cette vie de débauche, et puis l'autre fils qui avait peut-être plutôt choisi la voie du pharisien dont je parlais tout à l'heure, ma voie, d'être bien reconnu auprès du père, de bien gérer les affaires du père, de pas trop dépenser pour bien gérer tout ce qui lui appartient, sans quelque part trop profiter de sa présence, malheureusement, et trop jouir du fait que je suis à côté de lui, je peux lui parler, je peux juste apprendre à le connaître, le découvrir, et c'est encore plus important que le servir. Mais si je lis le contexte de Luc chapitre 15, il est écrit « Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Les pharisiens, les scribes murmuraient, disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Quel est le public qui est là quand Jésus va raconter ses histoires? Allez, je vous fais un petit peu parler parce que si vous êtes comme moi, après la sieste d'un quart d'heure que j'ai faite tout à l'heure, j'ai pris deux cafés, mais c'est encore un petit peu galère. Alors si vous êtes comme moi, on va participer un petit peu de manière à ce qu'on puisse tous ensemble rester attentifs. Dans ces deux versets que je viens de lire, qui est là autour de Jésus? Je les relis, hein, parce que... Hein, ça me confirme le café. Hein. Alors, tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Qui est là?
Des pêcheurs.
Des pharisiens.
Les scribes.
Les péagers. En gros, les deux camps sont là. Ceux qui, normalement, sont rejetés par les religieux et les religieux. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ceux qui d'habitude sont rejetés par les religieux et n'ont pas du tout envie de croiser les pharisiens, ont envie d'écouter Jésus?
Il leur fait du bien.
Il leur fait du bien. Ce qui n'est pas le cas des pharisiens. Ouais.
Et il les accueille au lieu de les rejeter.
Il les accueille.
Bah, il leur donne une solution pour leur vie.
Il donne une solution à leurs problèmes, pour leur vie, ouais. Ils sont ignorants, et puis ils enseignent avec une autorité qu'ont pas les autres, et du coup ils se disent que cet enseignement est la vérité, ils apprennent plein de choses, probablement. Ils calment aussi les pharisiens, honnêtement, je pense que ça doit leur faire plaisir. Si enfin ces hypocrites, il y a quelqu'un qui ose leur dire en face ce qu'on pense. Ouais, je pense qu'ils doivent bien kiffer ça aussi. Donc, Jésus est là, il a deux publics devant lui, qui n'ont rien à voir, qui s'opposent. Honnêtement, c'est notre défi, quand on part sur un campus et qu'on veut annoncer l'évangile. Il y a tous ceux qui sont là, qui, quelque part, dans la vie de tous les jours, n'en ont rien à faire de religion, la rejettent complètement, désintérêt. Puis il y a ceux qui sont là et qui sont un peu les propres justes, qui se disent, ben, moi, enfin, c'est sympa que tu me parles de Jésus, mais... Voilà, moi j'ai tué personne, je mange bio, je trie mes poubelles, enfin, je vois pas où est le problème dans ma vie. Je fais tout ce qu'il faut. Et on a affaire à ces deux publics, et honnêtement, il faut énormément de sagesse pour parler aux deux en même temps. Honnêtement, il faut être éclairé de l'Esprit de Dieu. Jésus sait le faire, on va le voir dans ce texte. C'est énorme comment il arrive à toucher les deux publics en même temps. Moi, je crois que c'est un réel sujet de prière pour tous ceux qui travaillent parmi la jeunesse. Parce que les responsables de groupes de jeunes, honnêtement, c'est super dur. Quand il y en a qui vivent n'importe quoi et on veut enseigner la grâce, je dis, mais comment enseigner la grâce à ceux-là qui font n'importe quoi? Ils ont déjà bien compris la grâce, visiblement. Enfin non, ils n'ont rien compris à la grâce, mais ils ont bien compris qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Alors du coup, on va se dire, ben non, Dieu est saint, il est juste, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis les autres, du coup, ils sont complètement désespérés parce qu'on se fait rejeter comme partout. C'est super compliqué à parler de manière à ce que chacun ait vraiment quelque chose pour lui. Jésus va le faire. Je vais lire l'histoire du plus jeune des fils et puis ensuite l'histoire de l'aîné. Et je vous dis tout de suite la question que je vais vous poser à la fin, comme ça c'est plus facile. La question que je vais vous poser à la fin, c'est simplement qu'ont pensé les pharisiens et qu'ont pensé les pêcheurs qui étaient là. Ça va? On ne va pas faire deux camps, vous mettez chacun dans la peau, vous essayez de vous mettre dans la peau des deux personnages en même temps. On va faire très fort. Alors je commence par lire versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales pour ses pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Que pensent les pêcheurs notoires qui sont là et qui écoutent Jésus?
C'est pas possible que Dieu m'aime à ce point-là.
On est dans la même situation que lui quand il est au pourceau, etc. Et du coup, il y a peut-être un espoir maintenant.
Ouais. Il y a de l'espoir. L'amour de Dieu est incroyable. Il peut encore m'accueillir.
Pas de punition.
Pas de punition. Ouais. Je peux redémarrer une vie en tant que fils, pour de vrai. Pas une fausse vie de serviteur. Non, une vie en tant que fils, vraiment.
J'aurais été à sa place, j'aurais fait mieux que lui.
Probablement, moi j'aurais fait du business de pourceau.
Ah oui, alors là, par contre, peut-être qu'ils essayent encore de s'en sortir. Ouais.
Il y en a qui n'ont pas assez bu la tasse, comme on dit, hein. Et puis qui se disent, moi j'aimerais pas en être réduit à ça. Ouais. Moi je vais pas m'abaisser au point de retourner chez mon père.
Voilà,
je peux m'en sortir tout seul. Il faut avoir du courage. Ouais, probablement, effectivement, les pêcheurs sont divisés entre ceux qui se disent ça, c'est pas pour moi, je m'en sortirai toujours.
C'est pas possible.
Et puis ceux qui refusent peut-être d'y croire, simplement, qui se disent que, bon, là, Jésus, ouais, je n'avais pas pensé à ça, effectivement.
Je suis trop grand pêcheur pour.
Ouais. Et puis ceux qui sont juste remplis de bonheur, hein. Qui boivent les paroles de Jésus et qui se disent, mais c'est possible de... Waouh, énorme. Oh, les pharisiens, purée, ils nous l'avaient caché, mais on peut revenir à Jésus, nous. Waouh, franchement, c'est super. Et les pharisiens, ils pensent quoi de ce discours?
Trop facile.
Abusé, trop facile. Ça se saurait. C'est pas juste. Ah ouais. Le
Dieu
mec, il revient comme ça. Dieu n'est pas comme ça.
Dieu,
il nous éduque, il nous aime, il nous éduque. C'est pas juste, tu reviens et... Parce que Jésus, il a mis le paquet pour les scandaliser quand même. Hein. Qu'est-ce qui peut être plus scandalisant que manquer de respect à son père à l'époque, dilapider sa fortune, partir dans la débauche, terminer avec des cochons? Enfin, il a mis le paquet quand même. Là, on a l'impression qu'il avait des mots-clés pour irriter les juifs. Il avait sa petite feuille à côté. Mais c'est alors les mots-clés. Ah, cochon, je ne l'ai pas encore mis celui-là. Hop, il a mis le paquet. Bah, la plupart doivent être complètement scandalisés. Ouais. Est-ce qu'on les comprend? Peut-être quelque chose en nous qui dit en partie oui.
Non, ils auraient besoin d'une leçon.
Ils auraient besoin d'une leçon, ouais. En tout cas, Jésus va penser à eux aussi. C'est la suite du texte. Hein, il ne s'arrête pas simplement sur cette colère qu'ils ont là. Il va aussi leur tendre une perche à eux. Et la suite du texte nous dit « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint... » Je vais vous poser la même question à la fin du texte. « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. » Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le Vaugrat. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le Vaugrat. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. » Que pensent les pêcheurs ?
Ils sont jaloux.
Ils sont jaloux ?
Le frère est jaloux, vous comprenez ? Et s'il visait les pharisiens, il dit que les pharisiens ils sont jaloux de la grâce que Dieu nous fait.
Ouais. Ils trouvent ça injuste. Que Jésus n'est pas très fut-fut, c'est
non,
ça
le frère, n'est pas
le frère n'est pas très fut-fut.
Il avait tout ça à disposition, ça n'aurait jamais servi. Donc...
Ouais. Ils peuvent dire, c'est vrai, les pharisiens, ils ont toujours l'air coincés et tout. Ça sert à quoi ce qu'ils ont si ils disent vraiment qu'ils sont là dans la proximité de Dieu, on leur file plein d'argent, et ils sont là à se promener l'air tout triste. C'est vrai.
C'est une remise en question de leur œuvre.
Oui. Et les pharisiens, ils pensent quoi ?
Il fait bien de se mettre en colère.
Il fait bien de se mettre en colère. Et, probablement, ils se disent c'est normal. Ouais. Enfin, on aurait fait pareil. En même temps, qui ne ferait pas pareil ? Dire tu te décarcasses pour rien. Ouais, c'est. C'est le prof qui, tu révises comme un fou pour ton examen, t'as 19, tous les autres ont eu 2 sur 20 parce qu'ils n'ont pas révisé, puis pour finir le prof il dit bon j'ai mis 19 à tout le monde parce que j'ai vu que c'était trop compliqué. T'es dégoûté. Ça m'est jamais arrivé, hein. c'est pas du vécu personnel. J'imagine pour l'autre qui n'avait pas 2 comme moi. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ressentent encore ?
Passer à côté de quelque chose.
Ouais. Bon, il me semble que là, il y a aussi quelque chose, c'est dans ce que vous êtes en train de vivre, vous les pharisiens, cette perche qui est tendue, cette perche d'amour qui est tendue aux pécheurs notoires, je vous la tends aussi. Vous êtes en train de vivre quelque chose, en train d'essayer de gagner vos propres mérites, en train d'essayer par vous-même de vivre une vie parfaite. Mais vous n'avez pas de communion avec Dieu. Vous voyez bien que la joie n'y est pas. Vous voyez bien que vous n'arrivez pas à l'attraper. Hein, quand on court après le bonheur, il court plus vite que nous. Mais si vous courez après Dieu, lui, il vous donnera le bonheur. Oui. Eh bien, la perche vous est tendue aussi. C'est aussi simple que pour le païen. Vous dites c'est trop simple pour le païen, le pécheur. Vous dites c'est trop simple pour lui. Il suffit qu'il se repente, qu'il vienne à Dieu. Mais c'est pareil pour vous, les pharisiens. Prenez conscience que ce qui est le meilleur, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas faire quelque chose pour Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Si vous vous repentez du fait que vous essayez de vous justifier vous-même par vos œuvres, et que vous venez simplement à Jésus, ce sera la fête pour vous aussi. Parce que tout ce qui appartient à Dieu vous appartient. Hein, c'est ça dans le texte. Vous pouvez faire la fête tous les jours, vous êtes dans la présence de Dieu. C'est ce qu'un jour j'ai découvert, moi qui étais peut-être plutôt du côté du grand frère. C'est qu'un jour j'ai pu découvrir que ce qu'il y a de plus beau, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est pas juste de faire quelque chose pour lui. Ça, il y a quelque chose d'épuisant. Tout à l'heure, Jean nous a lu ce texte d'Ésaïe 40 avec les jeunes qui se fatiguent. Mais quoi de plus fatigant que la vie qui est décrite, la vie du grand frère là ? Juste en train d'essayer de faire des œuvres pour plaire, et de continuer à bosser, mais qui ne réalise pas que ce qu'il y a de plus beau, c'est de jouir de la présence du Père. C'est épuisant. Mais par contre, quand on réalise que le plus beau, c'est de jouir de la présence du Père, là, nos forces sont renouvelées. Et on peut bosser, il n'y a pas de problème. Mais nos forces sont renouvelées parce qu'on jouit de la présence du Père. Je crois qu'un grand défi pour annoncer l'Évangile auprès des jeunes, auprès des étudiants, c'est de parler à ces deux publics en même temps. C'est que ces deux publics sont toujours là et toujours mélangés. Et sans avoir la sagesse de l'Esprit de Dieu, on peut s'adresser parfois à quelqu'un qui est en train d'essayer de se justifier par lui-même en s'adressant comme si on parlait à un pécheur notoire. Et ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Ou on peut s'adresser à un pécheur notoire en lui disant qu'il est en train d'essayer de se justifier par ses propres œuvres, alors qu'il n'est pas du tout en train d'essayer de se justifier par ses propres œuvres. Il n'en a rien à foutre, la justification. Il veut juste profiter de la vie au maximum. Aujourd'hui, on rencontre des étudiants, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il y a plein de cultures différentes, il y a plein de parcours différents, il y a plein de passions différentes, il y a plein de sous-groupes différents. Parfois, il y a un étudiant qui est là, on passe un peu de temps ensemble, on a peut-être un quart d'heure pour discuter. Qui est-il? Quels sont ses besoins? Comment est-ce qu'il est en train de se justifier, de se sentir bon? De quoi a-t-il besoin? Franchement, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir parler avec sagesse en fonction de là où est la personne, c'est vraiment impossible de pouvoir toucher les cœurs. Voilà un sujet de prière pour la jeunesse, et je pense que tous ceux qui travaillent avec des jeunes réalisent combien c'est difficile de pouvoir adapter ce merveilleux message de l'Évangile à la situation de la personne qui est en face de nous. Que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage ensemble à persévérer, à annoncer cet Évangile qui au final transforme des vies, que ce soit des pécheurs ou des pharisiens, pour sa gloire, et que nous ne nous lassions pas de parler de l'Évangile autour de nous, en ayant la foi que Dieu peut faire quelque chose dans les cœurs, que ce soit ceux du fils prodigue ou du frère aîné. Merci.